Bonjour et bienvenue à l'émission Le quotidien des quotidiens en ce 11 décembre 2017. Alors, Noël approche, Jean-Sébastien Laliberté est très occupé avec la programmation du temps des fêtes. Et puis, on a le plaisir d'accueillir encore une fois en ce lundi Maurice Bolduc. Bonjour Maurice.
Oui, bonjour.
Comment allez-vous?
Bien vous-même.
Ça va bien, merci. Mm-hmm. Est-ce que vous êtes prêt pour la tempête annoncée?
On verra. Moi, j'ai plus tendance à parler de bordée de neige, débordée.
Ouais.
Ici, mais... là, de temps en temps, on a une tempête, mais c'est débordé.
C'est ça. Mais quand le vent s'en mêle avec de la poudrerie, que la visibilité devient nulle, là, on peut parler
c'est
de tempête.
C'est plaisant.
Oui, oui.
Moi, j'aime ça.
J'ai quand pas d'auto. Vous n'êtes pas sur la route? OK.
Non, j'ai pas d'auto, donc...
Vous voyagez à pied?
Ouais, transport en commun, ouais. Métro, autobus.
Et c'est vrai que ça calme.
Ah oui, ça fait... C'est ça.
Oui.
Il y a comme un buzz, là, de même année, c'est la ville ralentit pour quelques heures.
Ça nous oblige à arrêter un peu.
Oui, moi j'aime beaucoup ça. On sort la pelle, puis on pelle.
Je suis assez d'accord avec vous. Alors, Maurice, en ce 11 décembre, avez-vous des intéressantes histoires à nous raconter?
Quelques-unes. Le 11 décembre, aujourd'hui, c'est la journée internationale de la montagne.
Ah oui, la montagne qui sera blanche bientôt.
Oui, éventuellement, oui. Ça dépend où aussi, là, une montagne en Amérique du Sud.
Moins
qu'elle soit haut perché, puis il y a
des
neiges éternelles.
Moi, je pensais plus au Mont-Royal ou dans les Laurentides.
Mais ça a été déclaré donc le 11 septembre par l'ONU en 2003 pour souligner cette journée qui a contribué à sensibiliser la population et les gouvernements sur l'importance des montagnes. Il faut se rappeler que les montagnes jouent un rôle important, comme on disait, dans l'alimentation en eau douce pour la moitié de la population mondiale quand même. Puis elle abrite environ 12% de la population qui reste dans les montagnes. Puis un nombre impressionnant d'espèces végétales et animales aussi qu'on retrouve dans ces dites montagnes. Donc, et aussi, il y a des tam-tams pour le Mont-Royal.
L'été.
Oui. Et quelques événements. Celle-là, je l'ai trouvé rigolote. En 1582, oui, l'année n'a pas eu de 11 décembre en France.
Ah, comment ça?
Parce que, la veille, l'avant-veille, ils avaient adopté le calendrier grégorien pour le pays. Et le lendemain du 9 décembre, ils sont tombés au 20.
Alors, il n'y a pas eu de 11, de 12, 13, etc. Jusqu'au 20.
Mais ils sont rendus à Noël quand même. Ils ont eu Noël à temps. Bon, donc pas de 11 décembre, en 1582.
Ils n'ont pas sauté le 25.
Non. En 1931, c'est le statut de Westminster. Si vous vous souvenez de vos cours d'histoire, le statut de Westminster qui veut abolir tous les quelques pouvoirs qu'avait conservé le gouvernement britannique sur les Dominions. Donc, c'est à ce moment-là qu'officiellement le Canada serait devenu indépendant. Donc, du Royaume-Uni, de l'Angleterre. En 1936, le roi Édouard VIII renonce au trône en faveur de son frère, le duc d'York, parce qu'il était en amour avec une comédienne américaine, puis bon, ça se faisait pas.
Laquelle?
J'ai oublié son nom, excusez-moi.
Mais excusez-vous pas, là.
Parce que j'ai pas fait la recherche, mais on se souvient de l'histoire, ça avait fait scandale, il avait démissionné pour aller marier sa belle américaine. Oui.
Puis là, il me semble que Jean-Pierre Ferland voulait écrire une comédie musicale là-dessus.
Peut-être, faudrait vérifier.
Mais on vérifiera.
En 1937, CBF Montréal, donc Radio-Canada, la radio française entre en onde avec une puissance de 50 000 watts. Il couvre d'une mer à l'autre, comme dirait l'autre. Donc, c'est le début de la radio qu'on trouve pas loin d'ici. Ensuite, en 1941, l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste déclarent la guerre aux États-Unis. En 1944, le journal Le Monde est fondé par Hubert Beuve Méry. Je croyais que ce journal était plus vieux, mais c'était fondé en 1944. En 1946, l'UNICEF en 1946 est créé par les Nations Unies. En 1960, ça porte le nom des manifestations de décembre 60. C'était pour l'indépendance de l'Algérie, donc plusieurs manifestations dans plusieurs villes algériennes et Alger. En 2001, la Chine adhère à l'OMC, l'Office mondial du commerce. C'est-tu l'Office? Oui, il me semble que oui, l'OMC. En 2002, la fusée Ariane 5 explose en plein vol après seulement 3 minutes après son décollage. J'ai quelques naissances. Alfred de Musset, poète français, naît en 1810. John Nabat, homme d'affaires et brasseur canadien, naît en 1837. Donc, son nom est resté, la bière Labatt. Robert Koch naît en 1843, on le connaît moins, mais c'est le découvreur des bacilles et de la tuberculose et du choléra. Donc cet homme, ce chercheur, naît en 1843. Maurice Leblanc, écrivain français, naît en 1864. Maurice Leblanc, c'est le père de Arsène Lupin.
Ouais.
Ensuite, une autre naissance. Jean Marais, le comédien Jean Marais, naît en... Toulouse, la date sur l'autre feuille ici, naît en 1913 et nous quitte en 1998. D'autres naissances. Alexandre Soljenitsyn, écrivain russe, prix Nobel en 70, naît en 1918, oui. En 1930, Jean-Louis Trintignant, acteur français, lui, naît en 1930, je viens de le dire, en 1933. Roch Demers, le producteur des films pour enfants, naît à son tour. À l'origine, il s'appelle Gaston Grenacia. Il naît en 1938, mais on le connaît plutôt comme étant Enrico Macias. C'est la fête aussi de l'humoriste québécois Michel Courtemanche.
Ah oui, ça fait longtemps qu'on l'a vu, lui.
Ouais,
bye-bye.
Oui, il est réapparu dans les bye-bye dans les dernières années.
Mais pas l'année passée.
Ça se peut, oui, j'ai pas de mémoire. En 1971, décédait Maurice McDonald, un pionnier américain de la restauration rapide. On ne vous dira pas de quelle chaîne, le nom dit tout. Mm-hmm. Et voilà, ça fait le tour de ce 11 décembre.
Maurice, vous vous demandiez, OMC, c'était Office pour le Haut, c'est Organisation...
Mondiale du commerce.
Oui, Organisation mondiale du commerce.
Oui, ouais, mais merci beaucoup.
OK.
C'était le 11 décembre...
Merci à vous.
2017.
À la une de la presse, une chronique de Jean-Philippe Descaries annoncée pour une taxe Expedia. Christiane Germain du groupe Germain Hôtel monte au créneau. Ni Expedia ni Priceline ne remboursent de TPS ni de TVQ sur la commission que je leur paye. Dans les deux cas, pardon, j'envoie mes chèques en Suisse. La chronique de Mario Girard, Montréal et le trafic de parmesan. Nouvelle technologie, enseignant, point de suspension et ambassadeur d'une marque de commerce. Et art, gala Les Oliviers, morte de rire, Maria Mazza, sacrée humoriste de l'année. Il y a des articles aussi dans la catégorie « Dernière heure », dans la section « Dernière heure », « Tentative d'attentat terroriste à New York, 4 blessés, dont le suspect ». Une explosion s'est produite lundi matin en plein cœur de New York à l'heure de pointe, faisant 4 blessés. Le suspect à l'origine de cet incident a été arrêté, selon la police de New York et les pompiers. L'explosion de ce qui semble être une bombe artisanale, selon plusieurs médias, s'est produite peu avant 7h30 dans un tunnel reliant Times Square à la gare routière de Port Authority, un lieu de correspondance très fréquenté à cette heure-là. Les pompiers ont fait état de 4 blessés, soulignant qu'aucun n'était en danger de mort. La police avait préalablement indiqué que seul le suspect avait été blessé. L'explosion est une tentative d'attentat terroriste, a indiqué le maire de New York lors d'un point de presse. À quand une taxe Expedia? C'est la chronique de Jean-Philippe Descaries. Il n'y a pas que les industries culturelles et les acteurs du commerce de détail canadiens qui pâtissent du traitement fiscal inéquitable qui profite indûment aux géants étrangers de l'économie numérique actifs au Canada. Les deux piliers mondiaux du voyage en ligne, Expedia et Priceline, bénéficient eux aussi du laxisme fiscal canadien pour le paiement des réservations d'hôtels qui sont faites par l'entremise de leurs services à travers le pays. Après les sorties remarquées de Peter Simons, PDG des magasins Simons, qui fait campagne pour l'établissement de règles claires en vue d'une juste et saine concurrence avec les géants du commerce en ligne, c'est au tour de Christiane Germain, cofondatrice et coprésidente du groupe Germain Hôtel, de monter au créneau pour les mêmes raisons dans le secteur de l'hôtellerie. Le groupe Germain Hôtel possède et exploite 16 hôtels, le Germain et Hôtel Alt au Canada, le 16e ayant été inauguré il y a 2 semaines à Saint-Jean's, à Terre-Neuve et Labrador. Le groupe ouvrira 4 nouveaux établissements dans les 2 prochaines années, notamment un nouveau HALT, A-L-T plus, à Brossard. Comme la majorité des hôteliers au Canada, le groupe Germain a recours depuis quelques années déjà au service des agences de voyage en ligne pour maximiser le rayonnement de ses adresses canadiennes partout dans le monde. Deux grands groupes, Expedia et Priceline, dominent en fait largement le marché de la réservation en ligne en exploitant différentes enseignes qui sont responsables de près de 90 % des transactions en ligne. Expedia gère une douzaine d'enseignes, dont Trivago et Hotel.com, tandis que Priceline possède pour sa part une dizaine de sites de référencement, dont Booking.com et Kayak. Ces sites de réservation en ligne, qui affirment être en mesure d'offrir les meilleurs prix sur le marché sur un territoire donné, n'offrent pas leurs services à titre gracieux. Ils sont rémunérés par une commission que doivent leur verser les hôtels qu'ils ont référencés. « Je paye une commission de 20 % sur le prix du séjour et je n'ai pas le droit d'offrir un prix équivalent ou inférieur à celui que propose l'agence de voyage en ligne. Ce sont les règles du jeu. » Mais là où j'en ai, c'est que ni Expedia ni Priceline ne remboursent de TPS ni de TVQ sur la commission que je leur paye. Dans les deux cas, j'envoie mes chèques de commission en Suisse. Ces sommes échappent totalement aux taxes de vente, et ce, dans tous mes hôtels au Canada, déplore Christiane Germain. La PDG du groupe Germain donne l'exemple d'une chambre qu'Expedia louera 200 $ par nuit. Lorsque les clients payent d'avance son forfait hôtelier, il le fera directement à Expedia. Sur la facture de 200 $, Expedia prélève le montant de la TPS, de la TVQ et de la taxe hôtelière sous l'item générique « Taxes et frais » et rembourse au groupe Germain un montant de 160 $, 200 moins la commission de 40 $ et le montant des taxes prélevées sur 160 $. C'est donc dire que le site de référencement conserve sa commission de 40 $ et la différence du prélèvement des taxes sur 200 est celle remboursée sur les 160 $ versés au groupe Germain. Non seulement il ne paye pas de TPS et de TVQ, mais il conserve une partie du montant des taxes prélevées avant la commission. Lorsqu'un client d'affaires demande les numéros de TPS et de TVQ pour obtenir un remboursement sur les intrants, il se fait répondre que l'item générique taxes et frais représente des taxes qu'ils doivent payer aux États-Unis. Ça n'a pas de sens, insiste-t-elle. Lorsque j'ai demandé à Expedia pourquoi l'entreprise ne donnait pas son numéro de TPS et de TVQ aux clients qui lui ont payé directement leur forfait hôtelier, l'entreprise a pris 3 jours avant de me répondre pour finalement me faire savoir qu'il s'agissait là d'un sujet sur lequel elle ne voulait pas faire de commentaires. Ambassadeurs, professeurs certifiés et travaillent avec des partenaires privés. Plusieurs enseignants québécois s'enthousiasment pour des technologies en haut point d'en devenir les porte-parole bénévoles. Une situation jugée dangereuse par certains. Offerte seulement en anglais, l'application américaine CISA prend tranquillement racine dans les écoles du Québec. Pour ce faire, l'entreprise cofondée par des anciens de Google et Microsoft peut compter sur des enseignants qui créent des marches à suivre en français et font connaître sur leur blog leur affection pour cette application qui permet notamment aux parents de suivre à distance ce qui se passe dans la classe de leur enfant. Conseillère pédagogique en intégration des technologies à la Commission scolaire de la Rivière-du-Nord, France Leclerc est l'une de ses ambassadrices. Elle assure qu'elle ne retire aucun avantage, pas même une licence d'utilisation gratuite, à être accréditée par cette entreprise. Ce n'est pas mercantile, les profs en mangent de cette application-là. C'est emballant, dit celle qui a donné le mois dernier une conférence sur CISA dans le cadre du congrès de l'Association québécoise des enseignantes et des enseignants du Québec. CISA n'est pas la seule accréditée des enseignants au Québec. Google, Microsoft et Apple, pour ne nommer que celle-là, offrent aux enseignants d'obtenir une certification qui leur permet de devenir une référence dans leur milieu scolaire. Plusieurs dizaines d'enseignants québécois ont une ou l'autre de ces certifications. C'est certain qu'il y a une ligne qui devient de plus en plus mince à ne pas franchir. Il faut réfléchir. Est-ce qu'on est vraiment conscient qu'on fait la promotion d'une multinationale? Demande Thierry Carsanti, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication en éducation. Ambassadeur, c'est un titre marketing. On s'entend, tu n'es pas aux Nations Unies, dit Thierry Carsanti. Incendie en Californie, Santa Barbara menacée. Le feu poursuivait sa progression hier au nord de Los Angeles, menaçant désormais deux villes mitoyennes de Santa Barbara, tandis que les autres foyers de Californie semblaient désormais sous contrôle. Parti lundi dernier, Thomas, le nom de l'incendie qui a déjà ravagé les alentours de la ville de Ventura, n'était toujours contenu qu'à 15 % hier, malgré 4 435 pompiers mobilisés soutenus par 30 hélicoptères. Thomas a dépassé hier le seuil des 70 000 hectares de surface brûlée, ce qui le situe parmi les 10 plus grands feux de l'histoire de la Californie et menace encore 15 000 bâtiments selon les estimations de l'Agence californienne de lutte contre les incendies, CAL FIRE. Une photo diffusée hier matin par les pompiers de Santa Barbara montrait un mur de feu de plusieurs mètres de hauteur à quelques mètres seulement de bâtiments de Carpinteria, petite ville côtière située à moins de 5 km au sud-est de Santa Barbara. Thomas, dont l'origine reste indéterminée à ce stade-ci, a déjà détruit 754 structures, ce qui en fait le 11e feu, le plus important de Californie selon ce paramètre, et en a endommagé 162 autres.
Le soleil vient de se lever, pleut descendre sur Gaza. Les cadavres jouent main dans la main en attendant le trépas. Oh, paraît qu'à 2 heures, y'a un autre shot d'eau but prévu. Mais à météo-média, y'ont dit que t'es une petite belle journée. Mais à météo-média, y'ont dit que t'es une petite belle journée. Ton boss voulait te parler, y'avait juste des bons mots pour toi. T'sais, c'est pas ton ambition qu'on coupe, c'est ta chaise pis un de tes bras. Oh, ça roule en BM, ça vient me chanter la bohème. Mais à Radio-Canada, ils ont dit que t'es une petite belle journée. Mais à Radio-Canada, ils ont dit que t'es une petite belle journée. Le docteur vient de t'appeler, il paraîtrait que t'as pogné de quoi. Il t'a dit mon maudit chanceux, y'en a pas un million comme toi. À cette heure, tu t'occupes de ta petite, même si tu vieillis plus vite. Mais au réseau TVA, ils ont dit que t'as une petite belle journée. Mais au réseau TVA, ils ont dit que t'as une petite belle journée. Et quand la sagesse du silence parle, l'homme l'a fête. Et quand ben même que le bonheur tarde, au moins demain il annonce la marde. Quand ben même que le bonheur tarde, au moins demain il annonce la marde. Quand ben même que le bonheur tarde, au moins demain il annonce la marde.
Philippe Braque nous chantait « Bonne journée ».
À la une du Devoir, Gala Les Oliviers, menant la course avec 5 nominations, Mariana Mazza, notre photo, a mordu la poussière devant Julien Lacroix qui a remporté 3 Oliviers, dont celui de la découverte de l'année. Belle revanche en fin de soirée, cependant, pour l'humoriste au franc-parler, qui est devenue la 2e femme après Céline Dion, à obtenir le prestigieux Olivier de l'année. L'affaire Roson a été omniprésente tout au long du gala, sans toutefois que l'ancien patron du groupe Juste pour rire soit nommé une seule fois. J'ai dit Louise Dion? J'ai dit Céline Dion. Alors, c'est Lise Dion, bien sûr. Céline est drôle, mais Lise, c'est une humoriste de métier. Appel à des services d'interprètes gratuits des organismes venant en aide à des immigrantes victimes de violences interpelle Québec. Sitôt présenté, le plan de lutte contre la pauvreté est critiqué. Québec creuse l'écart entre les bons et les mauvais démunis, déplore des organismes. Beaucoup reste à faire, prévient Nicolas Hulot, mis en garde du ministre français à la veille du sommet post-accord de Paris. Il y a une photo du ministre français de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot. Le monde, solitude palestinienne, une chronique de François Brousseau. Rencontre des ministres des Finances, la taxe sur le cannabis au menu des discussions, mais pour Netflix, pas question de taxer. Où sont nés nos voisins? Notre série se transporte à Laval. Le code informatique fait ses premiers pas dans les classes du Québec et Option nationale dit oui à la fusion avec Québec solidaire. Les quelques 3 milliards de dollars qui seront investis par Québec pour permettre à 100 000 personnes de sortir de la pauvreté d'ici 2023 n'impressionnent guère les organismes de lutte contre la pauvreté de la province qui accusent le gouvernement de creuser le fossé existant entre 2 catégories de personnes pauvres. Dans son plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et la participation sociale présenté dimanche, Québec augmente significativement les prestations de base des personnes assistées sociales qui ont une contrainte sévère à l'emploi. Près de la moitié des investissements annoncés, soit 1,25 milliard, permettra de hausser le revenu annuel de ces personnes de 12 749 $ à 18 029 $, ce qui correspond au seuil de pauvreté, soit la mesure du panier de consommation. De l'autre côté du spectre, les bénéficiaires de l'aide sociale n'ayant pas de contraintes reconnues à l'emploi ne verront leurs conditions s'améliorer que maigrement. La prestation de base annuelle de 9 389 $ des personnes seules atteindra 9 929 $ en 2023, ce qui représente 55 % du seuil de pauvreté. Ne venez pas me dire que le Québec fait un bond en avant, a réagi le porte-parole du collectif pour un Québec sans pauvreté, Serge Petitclerc. Selon lui, l'augmentation des prestations d'aide sociale des personnes ayant une contrainte sévère à l'emploi représente une avancée. Mais les autres, par contre, demande-t-il, assurant que la mince augmentation de leur chèque mensuel ne leur permettra pas de se sortir la tête de l'eau. Devant la hausse de leur clientèle immigrante, des organismes pour femmes victimes de violences ou d'agressions sexuelles crient au manque de fonds pour embaucher des interprètes. Au bout du rouleau, ils exhortent le gouvernement du Québec à financer un service d'interprétariat gratuit, une demande récurrente laissée sans réponse depuis plusieurs années. On reçoit des femmes en grande vulnérabilité. Si on n'est pas capable de trouver quelqu'un pour leur parler dans leur langue, c'est une atteinte à leurs droits fondamentaux enchâssés dans les chartes, a déclaré Manon Monastès, directrice de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, soulignant que l'interprétariat est devenu une priorité. Le Québec est la seule province qui n'a pas de politique pour encadrer l'interprétariat. Le ministère de la Condition féminine et celui de l'Immigration ont dit avoir accusé réception de la lettre de la coalition, mais n'ont pas été en mesure de répondre aux questions du devoir. Environnement, après une année meurtrière, la baleine noire pourrait disparaître. L'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique ne dénombre plus que 450 de ces mammifères marins. La situation est si critique que les responsables gouvernementaux canadiens et américains doivent se faire à l'idée que sans leur intervention immédiate, la population de baleines noires ne pourra pas se rétablir, dit l'administrateur régional de la NOAA, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique, John Bullard. Des partisans de l'enfouissement partiel d'une ligne d'Hydro-Québec à Saint-Adolphe-d'Howard ont décidé de converger vers le siège social de la Société d'État à Montréal dimanche après-midi. L'objectif premier de leur manifestation était de réclamer une intervention directe du premier ministre du Québec afin de sauvegarder le paysage de cette municipalité des Laurentides. Les protestataires ont voulu rappeler à Philippe Couillard qu'il se doit de faire preuve de cohérence en adoptant la même position d'un endroit à l'autre. Par le passé, M. Couillard s'était montré ouvert à l'enfouissement d'une autre ligne, celle qui doit traverser la zone de forêt protégée du mont Hereford en Estrie. Si Hydro-Québec offre l'enfouissement à Saint-Adolphe-d'Howard, lorsqu'on leur demandera ailleurs dans la province, il faudra également être en mesure de le faire, a expliqué la porte-parole d'Hydro-Québec, Geneviève Chouinard, en citant les coûts de 60 millions de dollars associés à l'enfouissement éventuel de cette ligne.
Approche-toi de moi, j'ai besoin de parler, parler un peu de toi, de moi, jusqu'à demain peut-être,
peut-être
ou bien jusqu'à la mort,
peut-être,
je ne sais pas encore,
oh, 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 oh,
le temps qu'il durera,
oh, oh, hey, ah,
cet amour que nous vivons là. Jusqu'à demain peut-être,
peut-être, peut-être,
ou bien jusqu'à la mort,
peut-être, peut-être,
jusqu'à demain
peut-être, peut-être,
ou bien jusqu'à la mort,
peut-être, peut-être,
on se jette dans l'amour comme dans une eau claire et l'on fête chaque jour comme un anniversaire. Je te donne tout, et tu te donnes toi. On dit qu'on ira jusqu'au bout, on ne dit pas de quoi. On dit que l'on y croit, on dit n'importe quoi. Je ne sais pas encore le temps qu'il durera. Cet amour que nous vivons là,
ça durera
jusqu'à demain peut-être,
peut-être,
ou bien jusqu'à la mort,
peut-être,
jusqu'à demain peut-être,
peut-être,
ou bien jusqu'à la mort. On ressemble,
oh, oh,
toi et moi,
oh, oh,
à ces bêtes
oh,
sauvages
oh,
qui se mordent
oh, oh,
pour s'aimer davantage. jamais on a fait mieux. Jamais on ne fera. Avec un peu d'eau et de feu, plus grand amour que ça.
Peut-être bien.
Plus bel amour que ça.
Peut-être bien.
Plus bel amour que toi. Jusqu'à la mort,
peut-être,
jusqu'à demain peut-être,
peut-être,
ou bien jusqu'à la mort,
peut-être, peut-être,
peut-être bien.
Michel Fugain qui nous chantait jusqu'à demain, peut-être.
À la une du Journal de Montréal de ce 11 décembre 2017, Les Oliviers, gala sur fond de controverse, Mariana Mazza, qui prend pas mal toute la place de la une du Journal de Montréal, a remporté l'Olivier de l'année au terme d'une soirée où planait l'ombre de Gilbert Ozon. Exclusif, selon une étude, un monorail entre Montréal et Québec serait irréaliste. Coureur de marathon, il a frôlé la mort 5 fois. Lutte contre la pauvreté, feu vert, un revenu minimum garanti. Un manège qu'un moyen de transport, dit un rapport. L'implantation d'un système de monorail entre Montréal et Québec semble utopique. Un monorail suspendu qui circulerait à 250 km à l'heure au centre de l'autoroute entre Montréal et Québec est irréaliste et peu crédible selon une rare étude technique produite sur le sujet dont notre bureau d'enquête a obtenu copie. Un tel moyen de transport circulerait si vite qu'il serait incapable de suivre de façon sécuritaire les courbes parfois serrées de l'autoroute 20 ou de l'autoroute 40, et il risque aussi d'être inconfortable pour les passagers. En fait, ces caractéristiques ressemblent plus à celles d'un manège qu'à celles d'un moyen de transport en commun, constate un rapport produit par la firme Loctran de l'ingénieur Alain Audette, spécialiste en planification des transports. Le rapport a été produit pour le compte de l'Association de l'aluminium du Canada. C'est l'auteur de ce rapport que le ministère des Transports a confié le mandat. C'est à l'auteur de ce rapport que le ministère des Transports, a confié le mandat d'évaluer les études d'achalandage d'un train léger dans le corridor du pont Champlain. Rappelons qu'à la fin novembre, le premier ministre Philippe Couillard avait relancé l'idée du monorail lors du congrès du Parti libéral du Québec. Il avait dit que si son gouvernement conservait le pouvoir à l'automne 2018, il aimerait recevoir des propositions pour une liaison moderne, durable, futuriste. Un homme a tué une connaissance qui lui devait de l'argent après avoir appris qu'elle venait de remporter plus de 54 000 au casino. Après son crime, il est retourné au casino pour jouer 2 000 $ qu'il a réussi à obtenir de la victime. Accusé du meurtre, Fu Quang Nguyen a plaidé coupable cette semaine à une accusation réduite d'homicide involontaire. L'accusé et sa victime, Sai Oang Nguyen, aucun lien de parenté, étaient des joueurs compulsifs avec de graves soucis financiers. Le 27 décembre 2014, l'accusé, alors âgé de 42 ans, s'est rendu chez la victime à Longueuil afin de récupérer les 10 000 $ qui lui avaient été prêtés. Il était alors aux prises avec plusieurs dettes et n'avait que 41 sous dans son compte en banque. Les créanciers de Fu Quang Nguyen étaient pressés de revoir la couleur de leur argent. Il avait menacé de le tuer s'il ne remboursait pas dans les prochaines heures, peut-on lire dans le résumé conjoint des faits déposés à la cour. C'est le fils de la victime qui a retrouvé le corps ensanglanté de son père plusieurs heures après l'agression. Fu Quang Nguyen a été arrêté 2 mois plus tard grâce à différentes techniques d'enquête. Il a été accusé de meurtre non prémédité. Mais selon les faits présentés par son avocat, Maître Jean-François Lambert, il avait agi à la suite de la provocation de la victime. Il a ainsi pu plaider coupable à une accusation réduite d'homicide involontaire. Il a écopé d'une peine de 15 ans de détention. La Coalition Avenir Québec réclame des changements immédiats dans le programme qui vise à aider les résidences pour aînés à se munir de gicleurs, le qualifiant de trop rigide et mal adapté. En janvier 2014, 32 personnes âgées perdaient la vie dans l'incendie de leur résidence pour aînés à l'Île-Verte. Près de 4 ans après la tragédie, environ la moitié des résidences de la province ne disposent pas de gicleurs, alors que 902 foyers à travers le Québec n'en sont toujours pas munis. La loi qui obligera les résidences à disposer de gicleurs entrera en vigueur à compter de décembre 2020. On approche, on est à l'aube de 2020, ça va très vite, prévient François Paradis, porte-parole de la CAQ en matière de santé et pour les aînés. Présentement, les propriétaires de résidences pour aînés doivent contracter un prêt auprès d'une institution financière de leur propre chef. La CAQ estime que cette approche nuit aux plus petits foyers qui n'ont pas les moyens financiers de garantir de tels montants, alors que les travaux d'installation peuvent osciller entre 50 000 et 200 000 $. Le programme actuellement en vigueur promet un remboursement aux propriétaires de résidences, mais une fois les travaux entamés, il s'échelonne sur une période de 5 ans à raison de 2 versements par année. En mars 2015, Québec prévoyait une enveloppe de 116 millions sur 5 ans pour soutenir l'installation de gicleurs. Une première grosse bordée demain. Le mercure va chuter brutalement à compter de jeudi. Une première tempête de neige majeure frappera l'ensemble du Québec à compter de demain avec des accumulations de 15 cm attendues à Montréal. Québec et l'est de la province en recevront encore plus. De forts vents devraient se mêler aux précipitations, surtout dans la région de la capitale et dans le Bas-Saint-Laurent, avertit le météorologue d'Environnement Canada Alain Roberge. Ça pourrait entraîner de la poudrerie, surtout à Québec et dans la région du Bas-Saint-Laurent, où la visibilité pourrait être réduite, décrit-il. Pour Montréal, les précipitations qui débuteront demain matin devraient commencer à faiblir en fin de soirée, mais pourraient s'étirer jusqu'à mercredi matin. À Québec, il devrait cesser de neiger dans la nuit de mercredi à jeudi, alors que des flocons pourraient encore tomber en Gaspésie vendredi. La province goûtera à un redoux demain, juste avant le début de la tempête, alors qu'on annonce du temps froid pour la journée d'aujourd'hui. Géant de la culture populaire en France, le chanteur Johnny Hallyday sera enterré aujourd'hui au cimetière de Saint-Barthélemy. D'ailleurs, des panneaux de bois recouvraient hier l'endroit où sera inhumé le légendaire rocker décédé mardi dernier à l'âge de 74 ans. Ses obsèques ont été dignement célébrées samedi à Paris en présence de centaines de milliers de ses fans et un parterre rempli par le gratin artistique et politique. Un jeune garçon américain contribue à sa façon à apporter un peu de joie dans la vie des enfants qui doivent passer les fêtes dans un hôpital du Dakota du Sud. Nolan Adams, 11 ans, a réussi avec l'aide de sa famille à acheter 176 cadeaux destinés aux jeunes patients de l'hôpital pédiatrique de Sanford dans cet État du Nord des États-Unis. Son élan altruiste a commencé il y a 4 ans alors qu'il se rendait visiter sa grand-mère pour Noël. On était dans la voiture et j'ai demandé à ma mère et à mon père combien de cadeaux les enfants qui restent à l'hôpital allaient recevoir, raconte-t-il. Ils m'ont répondu « pas mal moins que toi ». Il voulait que ses enfants puissent avoir quelque chose sous le sapin à Noël, se souvient son père, Jason Adams. Nous nous sommes donc arrêtés au magasin du village et nous avons acheté quelques cadeaux. Au début, la récolte se limitait à 2 présents. À la deuxième année, le nombre est passé à 50. puis à 75 l'année dernière, et là, on parle de 176 cadeaux. Nouveau rendez-vous sur le climat à Paris, la question du financement à l'ordre du jour. 2 ans, jour pour jour, après l'adoption à la COP 21 d'un pacte historique contre le réchauffement terrestre, plusieurs dizaines de dirigeants sont de nouveau à Paris demain pour tenter d'accélérer une action climatique encore très insuffisante.
D'entendre Dumas et la pièce À l'Est d'Éden.
Les journaux régionaux, dans la tribune, Camille Dauphinet-Pelletier signe un texte intitulé « Controverse autour des sapins de Noël au CIU 3S ». Des sapins de Noël ne seront pas installés cette année pour des raisons religieuses au CIU 3S de l'Estrie. Chus laisse entendre un message publié sur Facebook et partagé plus de 2200 fois. L'organisation dément toutefois ces dires. Le message a été publié sur la page Syndicat des travailleuses et travailleurs du CHUS-CSN, qui n'est pas une page officielle du syndicat, mais est plutôt entretenue par des employés désireux de rester anonymes. On pouvait y lire que le sapin de Noël sur le toit du CHUS, Fleurimont, ainsi que celui sur le toit du pavillon Émile Noël de l'Hôtel-Dieu, ne seront pas installés cette année, tout comme le sapin sur la place Royer, jardin intérieur de l'Hôtel-Dieu. Ce seraient des travailleurs des installations matérielles du CHUS et des techniciens en soins spirituels qui auraient rapporté ces informations, mais eux non plus n'ont pas voulu s'identifier. La coordonnatrice des communications du CIU 3S, Annie-André Aymond, a reconnu que ces sapins n'avaient pas encore été installés, mais a répondu que ça n'avait rien à voir avec des convictions religieuses. Elle a également souligné que des sapins avaient été installés dans d'autres points de service du CIU 3S, notamment à la cafétéria du pavillon Argile et dans l'entrée de l'hôpital à Granby. Comme l'affaire s'est déroulée pendant la fin de semaine et que les employés concernés n'étaient pas disponibles pour répondre aux questions, il n'a pas été possible de savoir pourquoi les sapins n'avaient pas encore été installés, ni d'avoir la confirmation qu'ils allaient bel et bien être installés. Le message Facebook a suscité toute une vague de commentaires, plusieurs s'offusquant de la situation. L'auteur du message encourageait la population à faire une plainte au CIU 3S pour que ça change. Dans le Nouvelliste, Amélie Houle, Mélissa Blais des recherches infructueuses. À Louisville, rendu à ce stade-ci, on ne peut plus rien faire, donc on n'a pas le choix d'abdiquer car on a tout vérifié. C'est une autre fin de semaine de recherches infructueuses qui se termine pour la famille de Mélissa Blais, qui entreprenait les recherches de la dernière chance ce week-end avant la première vraie bordée de neige afin de retrouver la mère de famille disparue depuis le 2 novembre dernier. Je vis de la rage actuellement, car je voulais qu'on effectue ce genre de recherche en VTT 2 semaines après la disparition de Mélissa, mais les enquêteurs m'ont dit d'attendre qu'il y avait une enquête en cours. Je regrette tellement de les avoir écoutés et de ne pas avoir fait les recherches avant. Pour moi, soit Mélissa a eu un accident de voiture, soit elle a été victime d'un enlèvement. Il n'y a pas 36 solutions. Je ne comprends donc pas pourquoi les enquêteurs ont attendu aussi longtemps avant de commencer leur enquête. Avoue Manon Saint-Pierre, la demi-sœur de Mélissa, qui a mis sur pied l'initiative cette fin de semaine. C'est ainsi avec un sentiment d'impuissance et avec le cœur gros que Manon Saint-Pierre abandonne toute recherche pour retrouver sa demi-sœur à seulement quelques jours de Noël, une perspective qui lui fend le cœur. Votre dossier médical à l'écran, c'est un texte en exclusivité dans Le Soleil d'aujourd'hui, signé Jean-Marc Salvet. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, s'apprête à lancer un portail baptisé Carnet Santé Québec. Avec ce nouvel outil, les Québécois devraient avoir accès à des informations sur leur dossier médical partout et en tout temps. Ils pourront voir à partir de leur écran d'ordinateur, de leur tablette ou de leur téléphone intelligent, les médicaments reçus en pharmacie au cours des 5 dernières années. Les résultats d'une prise de sang, d'un test d'urine ainsi que ceux d'autres types de prélèvements. Ils pourront aussi consulter les rapports d'examen d'imagerie médicale les concernant, radiologie, résonance magnétique, échographie, mammographie et autres. Gaétan Barrette annoncera ce lundi à Montréal que ce nouveau site Internet sera disponible au début du mois de janvier dans 2 régions du Québec pour rodage. Il s'engagera de plus à le rendre accessible à tous les citoyens de partout au Québec, d'ici l'été prochain, selon les informations du Soleil. Les Québécois pourront donc l'utiliser avant les prochaines élections générales. La chronique de Denis Graton, Les Fanfreluches de Gatineau, c'est dans le droit. Fanfreluche m'a raconté un beau conte à sa manière. Fanfreluche m'a raconté un beau conte pour nous amuser, pour vous amuser. Les gens d'une certaine génération se souviennent sans doute de cette ritournelle et de la poupée qui ouvrait son grand livre de contes pour transporter les jeunes téléspectateurs dans des mondes aussi merveilleux et magiques les uns que les autres. En fait, ce que la comédienne Kim Yaroshevskaya, alias Fanfreluche, faisait, c'était de donner le goût de la lecture aux enfants. Gatineau a ses Fanfreluches, 40 Fanfreluches qui, depuis septembre dernier, partagent leur goût et leur amour de la lecture avec de jeunes enfants. On les appelle les bénévoles lecteurs. Et une fois par semaine, durant 8 semaines consécutives, ces bénévoles de 50 ans et plus, recrutés par la Corporation des aînés de la cabane en Boiron, se rendent dans les écoles pour tout simplement lire des histoires aux petits. Ce projet intergénérationnel se nomme « Lire et faire lire » et il existe au Québec depuis 2002. Mais c'est la première fois cette année qu'un groupe d'aînés de l'Outaouais s'y joignent pour propager l'amour de la lecture chez les enfants. Chaque bénévole lecteur a son petit groupe de 2 à 5 élèves de la maternelle à la deuxième année qu'il visite chaque semaine pendant une période de 8 semaines. Le projet se déroule dans 6 écoles des secteurs Hall et Elmer, ainsi que dans 2 centres de pédiatrie sociale de Gatineau. Ils sont donc 40 aînés de Gatineau à prendre part à ce projet. Et nous avons une liste d'attente d'approximativement 45 personnes qui, comme nos 40 bénévoles lecteurs, ont passé la demande de vérification des antécédents judiciaires, de dire le coordonnateur de ce projet, Gilles Bilodeau. Nous avons recruté les bénévoles lecteurs au Salon du livre du printemps dernier. Et le kiosque Lire et faire lire sera encore présent au Salon en 2018 pour recruter de futurs lecteurs. Mais les 40 Fanfreluches de Gatineau ne vont pas dans les écoles pour enseigner la lecture aux enfants. Là n'est pas leur rôle. On va leur offrir un cadeau de laisser tomber Hélène Larouche. On va partager avec eux notre passion pour la lecture. On va leur donner le goût de lire et leur faire découvrir le plaisir de lire. On va semer une petite graine de futurs lecteurs. Et pendant nos 8 semaines avec les enfants, un lien affectif et un lien d'amitié se développent entre l'aîné et son groupe de 2 à 5 enfants, et c'est formidable. C'est un moment tellement précieux d'enchaîner Paul Fournier, une autre bénévole lectrice du projet. Il nous faudrait toujours un enfant d'âge préscolaire dans notre entourage. C'est de la magie d'être avec eux et de leur offrir cette ouverture sur un monde merveilleux. Et Hélène a raison, c'est un cadeau qu'on leur offre. Et le livre n'est-il pas le plus beau jouet à offrir? Je ne suis pas grand-père, d'ajouter Claude Leduc, et je n'ai pas d'enfant. Je n'ai donc pas de fibre paternelle. Mais avec ce projet, je me suis découvert, une fibre oncle, lance-t-il en riant. J'aime transmettre le goût de la lecture et les enfants le reçoivent bien. On voit qu'ils aiment énormément nos visites dans leur classe. On est l'événement de la journée dans l'école lorsqu'on arrive avec nos livres de contes. Les enfants sont habitués à avoir un prof pour 18 ou 20 élèves, mais avec nous, ils ont un adulte pour eux, juste pour eux. Ce n'est pas tout le groupe, c'est moi avec lui. Elles deviennent donc très précieuses, ces rencontres-là. Les 40 bénévoles lecteurs offrent bel et bien un véritable cadeau aux enfants en partageant avec eux leur amour des livres. Mais ces aînés reçoivent eux aussi un cadeau à chaque visite scolaire. On se sent utile de dire Paul Fournier. Une personne âgée est une richesse, elle peut apporter énormément aux enfants. Et ça nous apporte beaucoup à nous aussi de nous sentir utiles. Et pour plusieurs d'entre nous, ça brise la solitude et ça nous rappelle de doux souvenirs de nos enfants. Pour devenir bénévole ou pour de plus amples renseignements, Lucille Lévesque au 819-663-3305, poste 2220, 819-663-3305, poste 2220. C'est dans le droit, sous la plume de Denis Graton. Et dans le quotidien, pour terminer, une partie du texte, une expertise mondiale en matériaux anti-givre. Ceux et celles qui prennent l'avion lorsque la température atteint le point de congélation ont sûrement remarqué que l'appareil est souvent aspergé de fluide avant le décollage. Sachez que ces liquides anti-givre ont tous passé entre les murs du Laboratoire international des matériaux anti-givre, LIMA, de l'UQAC avant d'être commercialisés. Le LIMA est le seul laboratoire au monde à détenir l'accréditation de la Standard Aerodynamic Acceptance renouvelée aux 5 ans. Pour effectuer les tests sur les différents liquides, c'est sous la plume de Jonathan Hudon dans Le Quotidien.
L'opéra rock Starmania, on vient d'entendre Fabienne Thibault qui nous chantait « Les uns contre les autres ».
Actualité culturelle, la série du réseau américain HBO Big Little Lies, dirigée par le réalisateur montréalais Jean-Marc Vallée, est en nomination pour des trophées en vue de la cérémonie des Golden Globes qui aura lieu le 7 janvier. Elle est notamment en lice dans la catégorie de la meilleure mini-série ou film réalisé pour la télévision. Pour sa part, l'acteur torontois Eric McCormack, Mark est en lice dans la catégorie du meilleur acteur dans une comédie musicale pour son rôle dans Will and Grace. Un autre Canadien, Christopher Plummer, est quant à lui en nomination dans la catégorie du meilleur acteur de soutien pour son rôle dans All the Money in the World. Mariana Mazza remporte l'Olivier de l'année pour la deuxième année de suite. François Morency a animé le gala Les Oliviers hier soir à Radio-Canada, cité dans cinq catégories. Mariana Mazza a reçu l'Olivier de l'année. Voici un aperçu des gagnants de la soirée. C'est Véronique Lauzon dans la presse, mais on en parle dans tous les journaux d'aujourd'hui. Une seule femme est montée sur scène pour mettre la main sur un prix. Mariana Mazza a dû attendre à la toute fin de la soirée pour finalement remporter une statuette, et ce, même si elle partait grande favorite de ce gala. Après avoir essuyé 4 défaites, l'humoriste qui présente son premier spectacle solo, Femme ta gueule, a reçu le seul prix décerné par le public, soit celui de l'Olivier de l'année. « Merci de venir à mes spectacles, merci de m'encourager », a dit l'humoriste visiblement ému. La surprise, nommée dans 3 catégories, Julien Lacroix a remporté 3 statuettes. Le jeune humoriste, surtout connu pour ses vidéos sur le web, pouvait être fier. C'est une belle soirée. Pour des gens plus vieux, ça ne change rien des trophées, parce que vous savez que le cul-de-sac est là, que ça achève. Mais pour vrai, pour moi, ces 3 trophées-là, ça change ma vie. On ne fait pas ça pour ça. Bien, des fois, oui, mais merci beaucoup, a déclaré l'humoriste après avoir mis la main sur l'Olivier de la découverte de l'année. Le spectacle de l'année, Pierre Hébert, gagnant du spectacle de l'année, a été touchant en rendant hommage à sa conjointe qui, enceinte de 6 mois, a passé 33 jours hospitalisée pendant qu'il tournait son spectacle. Le podcast de l'année. Le gagnant de l'Olivier de l'année 2016, Mike Ward, met la main sur l'Olivier du podcast humoristique de l'année pour Mike Ward sous écoute. « Chaque semaine, je me saoule avec des amis et chaque fois je me dis « Je ne peux pas croire que je suis payé pour faire ça. Après, je dégrise et je me rappelle que je ne suis pas payé. Mais moi, je trouve ça beau, ce qui se fait sur le web en ce moment », a dit l'humoriste. Pour leur 9e et dernière saison, les appendices ont reçu le prix de la série télé humoristique de l'année. L'équipe a surtout utilisé cette tribune pour dire qu'elle dira un dernier au revoir à son public le 30 décembre à 20h à Télé-Québec, avec l'émission Tourlou 2017. Les Beaux Malaises a remporté le trophée de la comédie de l'été de l'année. Sur scène, la comédie télé de l'année. Sur scène, Martin Matt a souligné que c'était le 25e prix que sa série télé gagnait. L'Olivier du spectacle d'humour, meilleur vendeur de l'année, a été remis à François Bellefeuille, de François Bellefeuille. « Ça a beau être l'Olivier du show le plus populaire, ce n'est pas tout le monde qui me connaît encore. Je revenais chez nous dernièrement et j'ai vu une de mes voisines sortir ses vidanges la mauvaise journée. Avant qu'elle rentre chez elle, je me suis dépêchée et je lui ai dit « Madame, est-ce que c'est votre sac de poubelle? » Elle m'a dit que oui et que je pouvais prendre ce que je voulais. L'âge adulte est la série web humoristique de l'année. L'auteur et comédien Guillaume Lambert a indiqué sur scène « Merci à tous les artistes et interprètes de cette première saison. Vous avez fait une performance extraordinaire parce qu'il y a 250 scènes en 13 jours de tournage. Beat that, Fabienne! » Un clin d'œil sympathique au plateau de tournage de Fabienne Larouche. Simon Leblanc et Olivier Thivierge ont reçu l'Olivier de l'auteur de l'année pour le spectacle tout court de Simon Leblanc. Ça n'a pas d'estifi de bon sens parce que ça doit être le show le moins écrit de toute l'industrie. On s'assoit, on jase pendant des heures, puis au bout de ça, ça fait un spectacle, a dit en riant Simon Leblanc. Encore les galas, le gala des Oliviers, 5 moments qui ont fait le gala, selon Marc Cassivi. Morancy n'a pas tué l'éléphant. L'animateur du gala, François Morancy, avait annoncé qu'il tuerait l'éléphant dans la pièce. L'ombre de Gilbert Rozon planait évidemment sur cette soirée à la suite des allégations d'inconduite sexuelle qui pèsent sur lui. Or, Morancy a mis plus de 11 minutes avant de faire directement référence au grand patron de Juste pour rire, sans faire de blagues et sans le nommer, préférant saluer les filles et les gars qui, dans les derniers temps, ont dénoncé des actes d'abus inacceptables. C'est un choix qui se défend. L'humour bon enfant, efficace et rassembleur de François Morancy, très apprécié de ses pairs, a donné le ton à cette soirée plutôt réussie. Mais pour un tueur d'éléphants autoproclamé, j'ai trouvé Morancy bien sage. On était loin de Ricky Gervais aux Golden Globes. C'était peut-être pour le mieux. Peut-être. Autre moment, François Bellefeuille, lauréat de l'Olivier du spectacle Humour meilleur vendeur, a décidé de mettre son Olivier aux enchères sur sa page Facebook et de remettre la somme recueillie au Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel, les CALAC. Il a aussi promis d'égaler la mise et a déclaré que Juste pour rire ferait de même. « Je ne les ai pas encore avertis », a-t-il dit en acceptant son prix. Juste pour rire a confirmé en soirée que l'entreprise serait de la partie. Une excellente initiative. Le courage et l'humour, ce sont des choses qui sont contagieuses au Québec, a aussi dit Martin Petit en parlant des différentes initiatives pour venir en aide aux femmes victimes d'agressions sexuelles. La relève s'en permet un peu. Il y a peu de gens qui le savent, mais j'ai commencé à travailler dans le sous-sol de Radio-Canada. Je faisais les costumes, puis Julie Snyder est venue me prendre là-bas et ça a changé ma vie, a déclaré Julien Lacroix en recevant son troisième prix de la soirée. Une rare référence à Éric Salvaille. De façon générale, si je compare avec les Américains, notamment la troupe de Saturday Night Live, pas Québec, j'ai trouvé les humoristes québécois bien timides sur le front des inconduites sexuelles. Il y avait pourtant un potentiel comique indéniable du côté de la satire et de l'humour noir. Corinne Côté et Mehdi Boussaïdan ont abordé l'éléphant dans la pièce de manière habile à travers des trucs pour éviter les inconduites sexuelles dans un party de Noël. Mais il y a eu plus de blagues sur François Massicotte pendant la soirée que sur Gilbert Rozon. Deux poids, deux mesures, on est toujours dans les cinq moments qui ont fait le gala par Marc Cassivi. Ce doit être le show le moins écrit de toute l'industrie, s'est exclamé Simon Leblanc, lauréat avec Olivier Thivierge de l'Olivier de l'auteur de l'année pour son spectacle tout court, en grande partie improvisé. Ça n'a pas d'estifie d'allure, ce gala-là, a-t-il ajouté spontanément. Je n'écris pas mes textes, avait-il confié en entrevue à l'animatrice du pré-gala, Anaïs Favron, juste avant la cérémonie, étonnée d'être finaliste dans cette catégorie. Tu es le Safia Nolin de l'humour, venait de lui confier Anaïs Favron, qui ne savait si bien dire. Je t'aime en, et je cite, esti, a déclaré Simon Leblanc à son amoureuse, en conclusion de son discours de remerciement. Il était habillé d'un simple t-shirt sur scène. Je n'ai vu personne sur les réseaux sociaux hier soir reprocher au jeune humoriste son manque de décorum et son langage peu châtié, comme c'est le cas à chaque gala de la disque pour Safia Nolin. Et finalement, deux prix pour Hébert Mazza à l'arraché. Pierre Hébert, le grand gagnant du gala, prix de la mise en scène et du meilleur spectacle d'humour, a évoqué ému la longue hospitalisation de son amoureuse pendant sa grossesse, avant d'ajouter qu'il ne regretta pas d'avoir poursuivi sa tournée depuis qu'il avait ses trophées. Comique. Aucun prix de l'industrie n'a en revanche été remis hier à Mariana Mazza, pourtant finaliste dans le plus grand nombre de catégories, 5. Elle a plutôt reçu l'Olivier de l'année, remis par le public en toute fin de gala. Elle est seulement la deuxième femme à recevoir ce prix populaire après Lise Dion en 2002. Bref, il s'en est fallu de peu pour que la soirée Les Oliviers ne soit réservée qu'à un boys club. Ironique, au moment même où le milieu de l'humour en appelle à un meilleur traitement des femmes et à une plus grande place pour les femmes. Le Festival de la Naudière a dévoilé samedi par courriel à sa clientèle quatre concerts de sa 41e édition dont les billets sont mis en pré-vente. Fait notable, le concert d'ouverture du 7 juillet avec l'OSM sera confié à Susanna Malki, dont en août dernier, Le Devoir avait mis en avant le nom comme potentiel électrochoc dans la recherche d'un successeur à Kent Nagano. La Finlandaise dirigera la Symphonie fantastique de Berlioz et le concerto pour violoncelle d'Elgar avec en soliste Alban Gerhardt.
J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui, pour gravir, oh oui, le sommet. En oubliant souvent dans ma course contre le temps. Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Accord perdu, j'ai couru, assoiffé, obstiné, vers l'horizon, l'illusion, vers l'abstrait, en sacrifiant. C'est d'avant, je m'en accuse à présent. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Mes amis, c'était tout en partage.
Tout.
Mes amours faisaient très bien l'amour.
Ah oui.
Mes emmerdes étaient ceux de notre âge.
Bien sûr.
Où l'argent, c'est dommage et peut ronner nos jours. Pour être fier,
fier,
je suis fier,
fier.
Entre nous, je l'avoue. J'ai fait ma vie, mais il y a je donnerai ce que j'ai.
Pas tout à fait.
Pour retrouver,
je l'admets.
Mes amis,
mes amours,
mes emmerdes. Mes relations.
Ah, mes relations.
Sont
vraiment sont
haut placées.
Très haut placées.
Décorées.
Très décorées.
Influents.
Très influents.
Bedonnants.
Très bedonnants.
Des gens bien.
Très, très bien.
Ils sont sérieux,
trop sérieux,
mais près d'eux,
tout près d'eux,
j'ai toujours le regret. Mes amis,
mes amours,
mes emmerdes. Mes amis étaient pleins d'insouciance.
Oui.
Mes amours avaient le corps brûlant.
Oh oui.
Mes emmerdes aujourd'hui, quand j'y pense,
bon,
avaient peu d'importance et c'était le bon temps.
Les canulars,
les pétards,
les folies,
les orgies,
les jours du bac,
le cognac,
les refrains.
Tout ce qui fait,
je le sais,
que je n'oublierai jamais. Mes amis, mes amours, mes emmerdes.
Charles Aznavour et Mes emmerdes.
Segment libre, le policier en skateboard fait parler de lui autour du monde. C'est dans le Journal de Montréal d'aujourd'hui. Le projet du patrouilleur de Longueuil sera reconduit l'été prochain. Des États-Unis à l'Australie en passant par le Royaume-Uni, l'histoire du patrouilleur en skateboard de la police de Longueuil a fait le tour du monde. Le projet de cet ex-décrocheur a été couronné de succès au point où on se l'arrache maintenant pour qu'il raconte sa vie dans les écoles. C'est un texte de Claudia Berthiaume. Lorsqu'il a parlé de son idée de patrouille en skateboard à son chef, Thierry Hince Filion, était loin de se douter que son nom serait cité en exemple jusqu'en Chine et au Vietnam. « C'est inimaginable », dit-il. À la suite d'un reportage publié dans le Journal de Montréal en juin dernier, des médias de tout le Canada et de l'étranger ont raconté l'histoire unique du policier. Une équipe du quotidien The Guardian est venue de Grande-Bretagne pour le filmer. Un journaliste de New York a demandé à patrouiller avec l'agent de 32 ans, mais le temps a manqué pour que cela se réalise. Cet automne, le président d'Influence Communication, Jean-François Dumas, a recensé plus d'une centaine de reportages traitant du patrouilleur de Longueuil dans le monde entier. Un jeune policier, ancien décrocheur, près de ses concitoyens. C'est tout simplement magique. À une époque où l'image des policiers est mise à mal à travers l'Amérique, qui se plaindra d'un tel rayonnement? Écrivait M. Dumas dans la section débat de la Presse Plus. Sur la scène locale, Thierry Hince Filion est aussi très populaire. Son initiative de patrouiller dans les skate parks de l'agglomération de Longueuil a été un succès. De juin à octobre, de jour comme de soir, il a développé une relation privilégiée avec les adeptes de planche à roulettes, tout en exécutant des figures sur la sienne. Après 10 minutes, les gens avaient oublié mon uniforme. Ils voyaient juste quelqu'un comme eux. Ça permet de créer des liens forts, explique l'agent. Il a aussi rencontré plusieurs jeunes vivants avec des problèmes tant scolaires que familiaux. Le policier qui a décroché de l'école à l'âge de 15 ans pour y revenir à 23 ans utilise sa passion pour le skateboard afin de montrer qu'on peut réaliser ses rêves en persévérant. Si tu es capable de sauter un escalier en skate, tu es capable de faire bien des choses, illustre-t-il. Fait à souligner, le policier n'a jamais eu à faire des arrestations ou à remettre des contraventions lors de ses patrouilles. « Ma seule présence était dissuasive », note-t-il. Pour le chef de la police de Longueuil, le projet a été très concluant. « Il sera reconduit l'an prochain, mais je ne sais pas sous quelle forme exactement », indique Fanny Daguerre, ajoutant que d'autres policiers ont signifié leur intérêt à y participer. Durant l'hiver, Thierry Hinze-Fillion donnera des conférences dans les écoles. Une trentaine de jeunes de l'école Héritage se sont d'ailleurs déplacés au Spin Skate Park du quartier 1030 mardi dernier pour le rencontrer. Si ça peut changer l'image de la police et donner une meilleure réputation au skate park, c'est tant mieux, a résumé le copropriétaire du Spin, Stéphane Vallée. La police de Longueuil lance un concours de tag auprès des jeunes de son territoire. Tous les détails sont disponibles sur sa page Facebook. Après 10 ans dans la rue, il redonne au suivant. Un ancien sans-abri distribue des vêtements à de jeunes itinérants de la grande région de Montréal. C'est dans le Journal de Montréal, Catherine Montembeau. Joé Galland n'avait que 15 ans quand il a commencé à dormir sur les bancs de parc et dans les bâtiments abandonnés de Moncton au Nouveau-Brunswick. À ce moment-là, j'avais un endroit où vivre, mais la vie à la maison était horrible. Alors, je préférais être ailleurs, se souvient l'homme désormais âgé de 34 ans, qui est superviseur du dépôt de vêtements pour l'organisme dans la rue. Mère morte du cancer, belle-mère abusive et père qui fermait les yeux sur la violence que subissaient ses deux garçons, la situation familiale de l'adolescent était en effet loin d'être enviable. Mon père était quand même inquiet pour moi. Alors, il venait me voir et il me donnait des sous pour que j'aie quelque chose à manger, raconte M. Galland. Dès qu'il a décroché son diplôme d'études secondaires à 19 ans, le jeune punk à l'imposant Mohawk est parti sur le pouce en Ontario avec des amis. Il a ensuite vagabondé pendant plusieurs années aux quatre coins du Canada, enquêtant pour survivre. À écouter Joé Galland relater le début de sa vingtaine, à voyager sans un cent et à dormir à la Belle Étoile avec les amis qui se faisaient sur la route, on pourrait presque croire que l'itinérance est agréable, une impression que l'homme s'empresse de dissiper. Pendant ce temps-là, j'ai développé un gros problème d'alcool. Je me faisais battre par du monde, des sans-abri et des policiers. J'étais déprimé, dit-il. Une fois, j'ai passé 3 jours sur le bord de l'autoroute, au mois de décembre, à faire du pouce sans me faire ramasser. J'étais nu-pied parce que mes câbles d'acier étaient plus froids que le sol. Il ajoute qu'après avoir passé un bon moment dans la rue, il ne suffit pas de claquer des doigts pour se sortir de cette situation précaire. Des fois, j'essayais de rester à un endroit et de me trouver un emploi, mais j'étais mal habillée, j'étais sale, je n'avais pas de logement, alors personne ne voulait m'engager, souligne-t-il. C'est ça qui fait que c'est compliqué de sortir de la rue. Tu ne peux pas commencer avec rien. Il te faut une porte qui s'ouvre quelque part, poursuit-il. En fait, c'est presque impossible de s'en sortir sans beaucoup de soutien. Ce soutien, Joé Galland l'a trouvé en 2005 chez l'organisme montréalais Dans la rue. À l'époque, sa chienne Ria s'était cassée une patte et l'opération pour la sauver coûtait 5 000 $, une somme que le sans-abri était loin de posséder. L'organisme qui aide les jeunes itinérants a donc trouvé un vétérinaire prêt à soigner l'animal à prix réduit, en plus de payer la quasi-totalité de l'opération. Un geste que Joé n'a jamais oublié, même après que Ria soit morte 5 ans plus tard. Après l'opération, M. Galland a fait 2 semaines de bénévolat pour Dans la rue. Il s'est ensuite lancé dans un programme d'employabilité de 6 mois offert par l'organisme. Puis, en 2013, après avoir occupé quelques emplois à travers le pays, le trentenaire a été engagé comme superviseur des dons matériels. Aujourd'hui, il s'occupe des jeunes sans-abri qui, comme lui, autrefois, suivent le programme d'employabilité. Il est aussi responsable de l'entrepôt où sont entassées des dizaines de boîtes de dons contenant vêtements, produits d'hygiène et denrées non périssables. Ce que les gens de Dans la rue m'ont donné, c'est la différence entre regarder par terre quand tu marches et regarder devant toi, dit-il. C'est ce que j'ai trouvé ici et c'est ce que j'essaie de donner à mes jeunes maintenant. Il y aura des étoiles filantes plein le ciel, un spectacle unique dans la nuit de mercredi à jeudi. La Terre traversera une importante pluie météorique au cours des prochains jours, possiblement l'une des plus spectaculaires de l'année. Les Géminides, une pluie de météores qui se produit chaque année au mois de décembre, devraient atteindre leur paroxysme au cours de la nuit de mercredi à jeudi. Une multitude d'étoiles filantes, provenant de débris d'une comète depuis longtemps éteinte, sera alors observable si le ciel est suffisamment dégagé. Selon CTV News, il sera possible d'apercevoir plus de 120 étoiles filantes par heure. Elles traverseront le ciel à une vitesse de 35 km seconde. Ces météores sont faits de poussière et de particules et ils deviennent lumineux lorsqu'ils pénètrent dans l'atmosphère de la Terre avant de se désintégrer. Le phénomène cosmique est visible partout sur la planète, mais surtout dans l'hémisphère nord. Selon la NASA, le spectacle devrait être particulièrement beau cette année puisque la Lune sera mince. Les étoiles seront alors mises en valeur par l'obscurité. Les Géminides peuvent être vus à l'œil nu, mais il est préférable de les observer dans un ciel où le ciel est très sombre. Alors, après la tempête de neige, il y aura une tempête d'étoiles. Millionnaire à 6 ans grâce à YouTube. Ryan a 6 ans et il évalue des jouets sur YouTube. Selon le magazine Forbes, la jeune vedette britannique de la chaîne Ryan Toys Review ferait partie des YouTubers les mieux payés au monde. Selon un classement publié récemment par Forbes, la chaîne Ryan Toys Review a généré des revenus de 14 millions de dollars en 2017, ce qui place Ryan au 8e rang des personnalités de YouTube les mieux payées au monde. La chaîne, qui a près de 10 millions d'abonnés, présente Ryan en train de déballer et de s'amuser avec de nouveaux jouets. On peut voir la photo sur le Journal de Montréal. Selon le site web de Verge, la chaîne a été lancée alors que Ryan n'avait que 4 ans. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de ce lundi 11 décembre 2017. Le calme, le froid avant la tempête annoncée pour... ça commence la nuit prochaine. En tout cas, on parle de demain jusqu'à au moins mercredi matin. Soyez-en avertis. Et puis, c'est tout pour l'émission Le quotidien des quotidiens. Ici Hélène Denis qui vous souhaite une belle journée. Merci à Maurice Bolduc à la mise en onde et au choix musical. Quant à moi, je vous donne rendez-vous tout de suite dans 2-3 minutes avec l'émission Les Paractualités si vous nous écoutez en direct. À bientôt!